Chapitre 34. Le commissaire Lepennec réunit son équipe pour faire un bilan de l'enquête fusion nucléaire qui s'était transformée en cours de route en une nouvelle enquête Ernesto Brancoli. Si le mobile des agressions et de l'enlèvement était maintenant clairement déterminé, les protagonistes restaient mystérieux. Il n'avait pas été possible d'identifier les Russes tués dans l'attaque de la ferme. Certains étaient sans doute des éléments de ces fameux loups blancs, mercenaires qui louent leurs services et leurs compétences à toutes les causes pour de l'argent. Évidemment, ce genre d'individu ne se promène pas avec sa carte d'identité, ou s'il en a une, elle est fausse. Les employeurs souhaitent l'anonymat le plus complet et la loi du silence fait partie du contrat. L'employeur, en l'occurrence, était sans doute cette nébuleuse du crime que l'on désigne par commodité sous le nom de mafia russe. Quant au gangster américain, il n'avait pas été identifié non plus. Le commissaire Lepennec annonça en souriant que la seule chose sûre que l'on pouvait affirmer à son sujet, c'est qu'il ne faisait pas partie des loups blancs. Et encore, rien n'était sûr dans cette affaire. Isabelle les ayant entendus parler, la bande dont il était membre était américaine. Ils avaient en leur possession le même papier que les Russes, c'est donc qu'ils cherchaient la même chose. La façon dont s'étaient passés les événements prouvait que le réseau américain surveillait le réseau russe. Que des Américains cherchent à récupérer l'argent caché par un gangster américain, les choses étaient cohérentes. Mais le fait que la mafia russe soit impliquée dans cette recherche restait à élucider. Quoi qu'il en soit, cette affaire était sanglante. Le commissaire ne pouvait pas penser, sans avoir une énorme tristesse, au jour où il avait assisté aux obsèques dans la cour de la préfecture de police des trois policiers assassinés à la station-service. Trois jeunes, fauchés dans la force de l'âge qui était entrée dans le corps des officiers de police par passion pour servir la société et réprimer la délinquance. Ce n'étaient pas les médailles épinglées sur leur catafalque par le ministre de l'Intérieur qui consoleraient les familles de la perte d'un père, d'un fils ou d'un mari. Chaque policier qui entre dans le métier a conscience des risques qu'il encourt. Il n'empêche qu'il faut beaucoup d'abnégation pour exercer cette profession mal aimée du public, toujours prêt à la critiquer, mais qui n'hésite jamais à l'appeler en cas de nécessité. Les risques n'ont jamais été aussi grands. Les gangsters d'il y a une trentaine d'années ne se servaient de leurs armes qu'en dernière nécessité, alors que maintenant les jeunes malfrats n'hésitent pas à tuer pour un billet de 10 €. Chassant ses idées noires de son esprit, le commissaire Lepennec fit un bilan systématique des éléments de l'enquête et donna à chaque groupe des pistes d'investigation à la lumière du nouvel éclairage de celle-ci. L'urgence était d'appréhender les membres des deux réseaux, le danger pour la famille Marcilly n'étant pas écarté. Après mûre réflexion, il avait jugé que le meilleur endroit où elle pourrait être en sûreté était à Saclay, le dispositif protégeant les secrets atomiques de la France pourrait aussi bien assurer la sécurité de la jeune fille et de sa mère. Le commissaire Lepennec était intrigué. En route, en direction du plateau de Saclay, il pensait à la communication téléphonique qu'il avait reçue de François Marcilly. Il souhaitait lui parler, et ce qu'il avait à lui dire ne pouvait être fait qu'en tête à tête. Il franchit l'enceinte du centre atomique, puis une deuxième qui entourait les laboratoires de recherche sur la fusion nucléaire. Maintenant, il connaissait bien les lieux et sans hésiter, il se rendit dans les locaux de M. Marcilly, qu'Isabelle et Margaret avaient rejoints. Il salua les policiers, assurant une garde rapprochée, puis serra les mains au Marcilly. « Qu'avez-vous donc à me dire, monsieur Marcilly ?»« Commissaire, j'ai beaucoup réfléchi à tous les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines. » Comme vous, j'étais persuadée que l'enlèvement de ma fille était un moyen de faire pression sur moi pour obtenir des informations sur la fusion nucléaire. C'était une fausse piste. Pourtant, malgré la nouvelle orientation des choses, il n'en reste pas moins que c'est toujours ma famille qui est visée. Le papier que vous m'avez montré et dont vous avez accepté de me laisser une copie ne me dit toujours rien. L'existence de grosses sommes d'argent cachées, résultant des trafics réalisés par un gangster américain avant-guerre, m'a fait réfléchir. Et quel est le fruit de votre réflexion? Voilà. Bien entendu, ce ne sont que des hypothèses et non des certitudes. Je suis preneur de toutes les hypothèses, n'importe quel indice peut se révéler déterminant pour la progression d'une enquête. Ce que je vais vous dire m'oblige à revenir bien en arrière dans mon passé et à vous parler de mon père. Votre père ? Oui, mon père, Édouard Marcilly, aujourd'hui décédé, était banquier. Fils unique, toute mon enfance, j'ai eu une profonde admiration pour lui. C'était un homme extraordinaire, plein d'élégance et de prestance. Sportif, il pratiquait de nombreux sports, le tennis, le golf, l'équitation. Il avait beaucoup de succès auprès des femmes, car il était bel homme et avait du bagout. En bref, j'aurais voulu lui ressembler. Mais à l'adolescence, les choses se sont gâtées. Continuez. Mon père, ayant fait des études de droit, est devenu avocat. Il avait monté son propre cabinet. Il s'était spécialisé dans le droit des affaires et avait fait fortune en défendant de grosses entreprises. Il avait alors fondé une banque s'occupant essentiellement de gestion de fonds au niveau international. Je ne vois toujours pas en quoi cela concerne notre affaire. J'y arrive. Tout naturellement, mon père aurait souhaité que je lui succède à la tête de la banque. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Dès l'âge de 16 ans, j'ai manifesté un goût prononcé pour les sciences. Le droit et la finance ne m'intéressaient pas. Cette inclination ne plut pas à mon père. À contre-cœur, il me laissa m'engager dans des études scientifiques, espérant secrètement qu'au fil du temps je changerais d'avis. Ce fut une première rupture. Il y en eut donc d'autres. En effet, à mesure que je devenais adulte, l'image que j'avais de mon père se dégradait. J'étais curieux. C'était une qualité importante pour un scientifique, mais pas pour la morale. Je fouillais dans les papiers de mon père et peu à peu, je dus me rendre à l'évidence, certaines affaires gérées par la banque familiale n'étaient pas transparentes. Il pratiquait ce que nous appelons aujourd'hui le blanchiment d'argent. Il était en relation avec des sociétés suspectes et tout cela l'amenait à faire de nombreux voyages à l'étranger. Je ne lui ai jamais avoué que je connaissais le dessous de certaines de ses affaires, mais le jeune adulte que j'étais, plein d'idéaux et de bons sentiments, était écœuré. Dès lors, je ne voulus plus ressembler à mon père, mais devenir son contraire. Je m'investissais encore plus dans les études scientifiques à son grand désespoir. Nos disputes devinrent de plus en plus fréquentes. Un dernier événement déclencha notre rupture. Lequel ? Un jour, j'eus la certitude que mon père trompait ma mère. Comment ? Dans le quartier de la Sorbonne où je faisais mes études, je vis par hasard, boulevard Saint-Michel, mon père au bras d'une brune sulfureuse. Cette vision acheva de le désacraliser à mes yeux. Le soir même, je lui en fis le reproche. Notre conversation fut violente. Je n'en parlais pas à ma mère pour ne pas lui faire de peine, mais je décidai d'aller habiter seule dans une chambre de bonne dans le 6e arrondissement. Ma mère fut attristée par mon départ et accepta à contre-cœur, mon père l'ayant convaincu que j'étais en âge de voler de mes propres ailes. Trop content de mon silence, il paya sans sourciller la location de ma chambre. Ne voulant rien lui devoir, je trouvai rapidement un emploi de veilleur de nuit et je pus enfin assurer mon indépendance. Tout ce que vous me racontez est fort intéressant, mais je ne vois toujours pas la relation avec l'enlèvement de votre fille. Pourtant, après mûre réflexion, je pense qu'il y en a une.
Laquelle ?
Nous savons que les Russes et les Américains cherchent à retrouver l'argent des trafics d'Ernesto Brancoli. Et si mon père avait été mêlé en son temps à cette affaire, étant donné les activités douteuses de sa banque, la chose serait possible.
Pourquoi pas ?
Mais cela n'explique pas pour autant en quoi vous êtes mêlé à tout cela. Vous êtes physicien, vous n'êtes pas banquier. Votre père vous a-t-il confié des secrets ? Bien sûr que non. Je vous en aurais immédiatement parlé. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous étions fâchés. Après notre rupture, je n'ai plus jamais revu mon père. Je voyais seulement ma mère. Donc, vous n'avez plus de ses nouvelles ?
Non, à part ce que me racontait ma mère.
Une seule chose, pourtant.
Quoi ?
Quand la France a été envahie par les Allemands, mon père est parti à Londres rejoindre le général de Gaulle. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée d'Afrique où il est mort, au combat, à Bir Hakeim. J'ai compris en apprenant cela que c'était un homme aux multiples facettes, où le bon côtoyait le mauvais. Avant de mourir, ma mère m'a remis une lettre qui avait été trouvée dans son paquetage en Afrique. Il avait fallu plus de 15 ans pour que ses affaires personnelles soient remises à sa veuve.
Et que disait cette lettre ?
Sur l'enveloppe était écrit « Pour mon fils François ». Je l'ai gardée depuis, en souvenir de ce père que j'avais tant aimé et haï à la fois. Je l'ai ici, la voici.
Monsieur Marcilly sortit d'une pochette transparente une enveloppe jaunie par le temps, l'ouvrit avec précaution et en sortit, en tremblant, un papier qu'il tendit à Le Pennec. Celui-ci déplia la feuille, ajusta ses lunettes et lut.
« François, cette guerre est terrible, je côtoie la mort tous les jours, je vois tomber un à un mes compagnons, la mienne est peut-être proche. » Je ne veux pas partir sans que tu saches que malgré toutes nos disputes, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Certes, je n'ai pas été le père que tu souhaitais, mais la vie est ainsi faite, on ne peut revenir sur le passé. Quand tu liras cette lettre, j'aurai sans doute quitté cette terre, mais pense parfois à moi, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, pardonne-moi. Conserve en mon souvenir mon Gabriel Fort. Tu sais, je l'ai eu tout au long de ma vie près de moi et le canivet qui m'a servi de marque-page a une valeur inestimable.
Le commissaire releva les yeux.
Évidemment, cette lettre est émouvante. De quoi parle votre père avec son Gabriel Fauré ? Il était musicien ?
Un peu. Tout l'intéressait, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas du compositeur.
Vous remarquerez, si vous relisez attentivement le texte, qu'il n'y a pas d'accent sur le « e ». La confusion est fréquente. Le Gabriel dont parle mon père n'est pas l'auteur des valses Caprices, Barcarolle, Dolly ou autres morceaux célèbres, mais Gabriel Fort, un écrivain moins connu que le compositeur, né à Tournu en 1877 et mort à Paris en 1962. Il a longtemps séjourné dans le Diwa et écrit de magnifiques textes sur sa région. Mon père s'est intéressé à cet auteur car nous avons une maison de famille dans la Drôme et le livre qu'il évoque dans son post-scriptum est un des meilleurs ouvrages écrits par l'écrivain, Le Bel Été. J'ai toujours connu ce livre, il ne s'en séparait jamais. Il me lisait ou m'en faisait parfois lire des passages. Et encore aujourd'hui, je pourrais vous réciter par cœur ce que je considère le meilleur texte de ce livre, Dialogue dans le vent.
Cela sera inutile. Votre père parle de canivet, qu'est-ce que c'est ?
Un canivet est une image pieuse que l'on donnait souvent aux adolescents faisant leur première communion. Je pense que celle qu'avait mon père dans son livre datait de cet événement. Votre père parle de valeurs inestimables. Ce genre d'image pieuse est-il recherché par les collectionneurs? Certainement, mais toutes les images pieuses ne sont pas des canivets. Les canivets sont des images faites entièrement à la main. Il y a souvent une peinture au centre, aquarelle ou huile, voire une gravure, rehaussée d'aquarelle ou d'or. Et le papier autour est ciselé au canif, d'où le nom canivet. C'était le travail principalement des religieuses. Un travail long et patient pour réaliser une véritable dentelle de papier. Autant dire qu'ils sont rares et ont une cote importante auprès des collectionneurs. Ensuite, les dentelles sont fabriquées mécaniquement au XIXe siècle. Aussi, ces derniers ont moins de valeur. Et le canivet de votre père? Il n'était pas fabriqué à la main. La valeur qu'il lui attribuait était surtout sentimentale. Et ce livre, où est-il? Il est resté dans notre maison dans la Drôme. Pour une raison que je ne m'explique pas, mon père ne l'a pas emporté à Londres. Je l'ai retrouvé dans ses affaires et il est soigneusement rangé dans le grenier. Serait-il possible de l'examiner? Je suis coincé ici, je ne peux pas me déplacer. Je sais, je vais demander à la gendarmerie du village d'aller le chercher et de me le faire parvenir. Où sont les clés? Dans mon domicile parisien, mais un des voisins dans la Drôme en a des doubles. Parfait, donnez-moi toutes les indications pour trouver le livre dans la maison, je m'occupe de tout.